On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Hello tout le monde. Bah aujourd'hui, je suis très heureux. Très heureux aujourd'hui parce que j'accueille une nouvelle invitée, Johanna Bensoussan, qui va nous parler de son parcours entrepreneurial, toujours sous forme de première fois. Qu'est-ce que fait Johanna ? Bah, elle va nous le dire elle-même, justement, par rapport à son activité. Mais pour vous donner un petit peu des pistes, elle est copywriter, coach aussi en stratégie de contenu. Johanna, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux du coup te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui ?
Bonjour Alexandre. D'abord, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Je suis super contente d'être là avec toi. Et je vais t'expliquer. Donc, en quelques mots, j'étais avocate en droit des affaires et fiscalité à Paris. Et en fait, petit à petit, la vie m'a amenée vers une carrière tout autre, vers le marketing. C'est-à-dire tout ce qui me manquait en fait dans le métier d'avocat, je l'ai trouvé dans le marketing. Et j'ai commencé comme freelance et petit à petit, j'ai monté une agence où je fais travailler entre deux et une dizaine de freelances qui sont soit rédacteurs, soit copywriters, soit graphistes. Et dernièrement, on s'est lancé dans le coaching en stratégie de contenu.
Ok, donc double casquette. Merci pour cette présentation et ces précisions. J'aime bien aussi ce que tu racontes par rapport à ton parcours. Donc, tu étais avocate, puis maintenant, tu es plutôt dans le marketing, plutôt dans la stratégie de contenu. Donc, c'est vraiment une transition où on ne s'attend pas forcément à ce que ça aille vers ce côté-là. On va justement, du coup, parler de cette première fois et peut-être que c'est lié justement à ce que je viens de dire, ton premier déclic, ce qui t'a un petit peu donné envie, on va dire, d'entreprendre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je crois que c'était dans ton dernier emploi quand tu étais salarié notamment.
Ouais. Alors en fait, ma carrière d'avocat, j'ai aussi vu ton podcast sur le premier licenciement, donc je suis aussi passée par là. Mmh. Mon premier job, un cabinet d'avocat, premier licenciement. De là, repositionnement à chaque fois, remise en question. Je suis partie dans un Big Four à la Défense, un gros cabinet d'avocats où j'étais salariée. Là, disons que ça a été difficile. Tout ce qu'on décrit un peu de moche, on va dire, sur le métier d'avocat et les débutants, je l'ai un peu vécu. On travaillait énormément d'heures. On n'a eu pas forcément de reconnaissance pour notre travail. Je suis passée à ça du burn-out, enfin comme beaucoup, mais ça a fait que j'ai pu aller dans un cabinet à taille plus humaine, avec un boss qui avait confiance en moi et qui m'a vraiment redonné confiance en moi du coup. Et dans ce cabinet, en fait, il y avait une, donc c'était plus anglo-saxon comme ça l'esprit. Et dans ce cabinet, il y avait vraiment il avait compris en fait l'impact de LinkedIn, l'impact des réseaux, l'impact de la rédaction. Et il avait lancé une newsletter une fois par semaine. Donc, tous les avocats du cabinet devaient participer et écrire chacun un article au moins pour la newsletter. Et ça m'a vraiment redonné le goût à l'écriture. J'ai toujours été passionnée par l'écriture. Et voilà, faire des recherches, écrire, diffuser, tout ce process-là. Et surtout, on se rendait compte que ça amenait des clients. Ça veut dire que c'était simple et efficace. Et c'est ce qui m'a un peu réconciliée avec l'écriture et redonné goût à ça.
Ok, et c'est vraiment là qu'est venu un petit peu après donc ton déclic, le déclic d'entreprendre et te lancer un peu à ton compte. C'est assez fou parce que tu dis ça t'a redonné envie, redonné l'amour de l'écriture. Donc ça veut dire que c'est pas cette société, même si c'est un déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat, mais t'avais déjà l'amour de l'écriture bien avant d'arriver dans ce cabinet, même dans ce cabinet du Big Four dont tu parlais tout à l'heure. Donc quelque part en fait, il a juste réveillé en toi la flamme qui était un petit peu éteinte au niveau de la partie écriture.
Ah oui, ça veut dire si tu demandes à ma mère, j'avais des cahiers de poèmes depuis que j'étais petite. J'ai été, je crois, lauréate du concours de français au lycée.
Génial.
Je préparais des élèves au bac français. J'ai toujours adoré écrire et j'étais journaliste en mouvement de jeunesse quand j'avais 10 ans. Enfin, c'était vraiment, ça a toujours été une passion. Mais j'aurais jamais cru pouvoir vivre un jour de ma passion. Mmh. Et ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a permis ça.
Et ça, c'est chouette, parce que du coup, c'est ton ancien poste quand tu étais salarié qui t'ouvre un petit peu la voie par rapport à ça. Donc, tu décides de te lancer, t'y vas. Et là, on passe à cette deuxième première fois où tu vas nous parler du coup de ton premier client. On sait à quel point, quand on se lance, c'est pas évident d'avoir des clients. Toi, c'est une façon un petit peu improbable que tu as eu ce premier client. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus?
Ouais. Alors, mon premier client, c'est vraiment la chance du débutant. C'est-à-dire que c'était un coach assez connu que j'ai rencontré sur un salon, avec des indépendants. Et moi, je venais de commencer à faire une formation en fait pour me reconvertir. Donc, j'avais juste mon nom de boîte et j'avais dû déposer un statut d'auto-entrepreneur, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'étais au point zéro et je le rencontre et il me dit qu'est-ce que tu fais maintenant? Je lui dis bah voilà, je me lance, je vais faire de la traduction, de la rédaction. Et il me dit ah bon, je t'appelle demain, j'ai un projet. Et il m'appelle le lendemain matin et il me dit j'étais très sérieux hier, est-ce que tu te sens de traduire un livre pour dans un mois et demi?
Ah oui.
Je lui dis un livre. Alors on recontextualise. On est fin juillet, j'ai 3 enfants en bas âge et il y a un mois de vacances. Et donc là, je lui dis, combien de pages? 300 pages. Ah d'accord, ok. Je vais juste en parler avec mon conjoint, à voir s'il est ok de gérer les enfants pendant un mois alors que je vais travailler H24. Mm-hmm. Et en fait, on s'est mis d'accord très très rapidement en se disant que c'était une opportunité à ne pas rater et qu'il fallait l'accepter et qu'il fallait y aller. Et j'ai vraiment pas regretté. C'était une super, super expérience. C'est vrai que c'était la course contre la montre, mais à la fois, j'avais un client qui était, qui m'a fait confiance, qui était pas sur mon dos toute la journée, et un projet qui m'a passionnée où j'étais vraiment jusqu'au bout. Donc voilà, super première expérience. Mais du coup, ça amène sur la première fois d'après, c'est-à-dire, comment on fait quand on n'a pas de client, en fait?
Ouais, c'est ça, exactement. Et on va y venir justement après. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, et que tout entrepreneur doit justement avoir à l'idée, c'est de saisir des opportunités. Là, il te demande quelque chose d'un petit peu improbable et où il va te mettre dans le rush. Et en plus, quand je dis dans le rush, bon, tu l'as dit, tu es avec ton conjoint, tu as 3 enfants, donc il faut vraiment prendre en compte cette partie-là. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que j'en suis capable aussi? Parce que c'est les vraies questions qu'on se pose quand on est entrepreneur, ou en tout cas quand on se lance. Est-ce qu'on est légitime? Là, il me demande de traduire 300 pages en un mois et demi, enfin, c'est quand même énorme. Au final, tu as réussi un petit peu beaucoup même à bien exploiter cette partie-là. Donc, c'est devenu ce premier client pour toi. Ça nous amène un petit peu à cette troisième première fois où, bah, du coup, tu vas avoir aussi d'autres clients. Et cette première fois, c'est plutôt lié au sous-traitant. Donc, ton premier sous-traitant à qui tu fais appel pour justement un petit peu déléguer cette partie-là. Et cette notion de déléguer quand on est entrepreneur, elle est aussi très importante.
Moi, c'est ce qui a tout changé. Ça veut dire que pendant un moment, j'ai vogué entre les petits clients qui m'ont tout appris. Hein, donc, vraiment, vis-à-vis desquels je suis hyper reconnaissante. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de petits clients. Et puis un jour, j'ai dit, OK, il faut que je mette en place une vraie stratégie pour avoir des gros clients. Je suis prête à avoir des gros clients. Je me sens légitime. Comment je vais gérer si j'ai plusieurs gros clients à la fois? Donc, bon, je me suis dit déjà que j'en ai un. Et puis, donc, c'est grâce à la prospection sur LinkedIn que j'ai eu mes premiers clients. Donc, à l'époque, c'est de la prospection en one-to-one. J'allais chercher les personnes qui m'intéressaient. Je leur envoyais des messages, je leur expliquais ce que je faisais, ce que je pouvais faire pour elles. Et en fait, de là, comme un bonheur n'arrive pas seul, j'ai eu 3 gros clients qui sont arrivés d'un coup avec des gros projets. Et là, il fallait gérer. Donc, j'étais aussi sur le point d'accoucher en même temps. Donc là, j'ai dit, OK, je ne peux pas... Il faut gérer. J'ai travaillé dur pour ça. Je ne peux rien refuser. Il faut que j'accepte tout. Mais il faut que je sois à la hauteur des attentes des clients. Donc là, en fait, j'ai commencé à chercher, à prospecter pour chercher des sous-traitants qui soient à la hauteur. Au départ, j'ai travaillé qu'avec des juristes et des avocats parce que c'était un monde que je connaissais et qu'on rédigeait pas mal de contenu juridique. Et aussi parce que voilà, je savais qu'il y avait une rigueur et que ça me rassurait. Et après, au fur et à mesure, je me suis étendue sur des sous-traitants qui étaient soit des graphistes quand j'avais besoin de graphistes, soit des rédacteurs, mais qui étaient spécialisés dans divers domaines qui n'avaient rien à voir avec le droit. Et en fait, j'ai appris à chercher au bon endroit, dans les bons forums, dans les bons groupes, les personnes qui seraient compétentes. J'ai payé pour apprendre aussi de prendre des personnes qu'on payait moins cher, mais qui n'étaient pas forcément compétentes. Et j'ai constitué une équipe assez solide, donc j'étais super contente. Et le plus drôle, c'est que ma première sous-traitante, pour l'anecdote, la première fois qu'elle m'a parlé, elle m'a dit « Écoute, par contre, je me sens très, très mal à l'aise. Je suis expat, je viens de partir habiter en Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça te pose problème ?» Et je lui dis, mais en fait, du moment que tu travailles bien et qu'on arrive à se parler à des horaires qui vont à tout le monde, tout ira bien. Et on a travaillé ensemble pendant un an et demi jusqu'à ce qu'elle réalise son rêve de rentrer dans une ONG là-bas et qu'elle arrête de bosser. Mais il y en a eu d'autres par la suite et il y en a toujours.
C'est chouette, c'est bien. Donc, tu as déjà pris conscience, en fait, dès le début qu'il fallait s'entourer, qu'il fallait déléguer. Tu aurais pu aussi te dire, bah voilà, je vais avoir une surcharge de travail, je vais justement dépasser mes heures. Puis au final, en faisant ça, on n'a pas forcément de vie de famille, de vie personnelle. Donc, toi, dès le départ, tu instaures un petit peu cet équilibre, ce qu'on ne fait pas toujours quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est plutôt bien. Donc, toi, tu as ces premiers clients qui arrivent, ces trois gros clients, parce que tu avais déjà des petits clients, comme tu dis, avec lesquels justement tu es reconnaissant aujourd'hui puisqu'ils font un petit peu la personne que tu es et c'est eux qui t'ont permis d'avoir ces trois gros clients. Justement, on parle de cette quatrième fois où tu en as parlé un peu tout à l'heure, tes premiers clients sur LinkedIn, comment tu as fait pour les avoir? Est-ce que c'est des publications? Est-ce que tu as mis une stratégie justement de prospection? Comment tu as fait aujourd'hui pour les attirer vers toi?
Ouais, alors à l'époque, il y a des choses qui sont assez semblables entre ce que j'ai fait il y a 4 ans quand je me suis lancée aujourd'hui. Il y a des choses qui sont complètement différentes puisque LinkedIn a énormément évolué. C'est pas toi que je vais le dire. La première chose, c'est que oui, il fallait mettre comme un CV, il fallait mettre son profil à jour, ses photos à jour, couverture, etc. Donc, c'était les débuts de Canva. J'ai appris à me servir de Canva toute seule. Au fur et à mesure, en fait, j'ai souvent changé mes entêtes, souvent changé mes photos pour voir ce qui fonctionnait. J'ai aussi rédigé, comme je faisais à l'époque quand j'étais avocate et que je cherchais des stages ou des boulots, j'écrivais une lettre de motivation par secteur et par... c'est-à-dire, si je cherchais en droit des affaires, j'allais écrire une lettre pour le droit des affaires. Et si je cherchais en droit fiscal, cherchais une lettre où j'allais chercher des informations sur le cabinet, etc. Et ça, je pense que c'est la base de la prospection. C'est-à-dire que chaque fois que je m'adressais à quelqu'un, je faisais une recherche, une analyse pour savoir qui était la personne en face de moi, de quoi j'allais lui parler, quels étaient nos points communs. Et pour savoir comment est-ce que j'allais pouvoir lui écrire un message qui soit à la fois court et concis pour qu'elle le lise, mais qui fasse qu'elle puisse me rappeler et être intéressée. Et j'avais à l'époque un taux de conversion par rapport à mes messages de prospection qui était hyper élevé. Faut savoir que il y a 4 ans, le copywriting, le ghostwriting, la rédaction web, c'était au balbutiement. Il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça de façon professionnelle. Moi, j'ai pas fait de formation en tant que rédaction parce que j'estimais que j'avais été formée largement. J'ai fait 10 ans d'études pour être avocate dans 2 pays. Donc, sur ce point-là, ça allait. Par contre, je me suis formée en SEO parce que très vite, j'ai compris que la rédaction, c'est bien, c'est très intuitif. Mais par contre, le SEO, ça s'apprend. Il y a de la technique. Et grâce à certains de mes clients, d'ailleurs, qui m'ont aussi payé des formations dans le cadre de notre collaboration, j'ai pu avancer, utiliser des bons outils, comprendre quels étaient les enjeux du SEO. Et ça a tout changé parce que du coup, j'ai pu me positionner beaucoup plus en expert et puis former moi à mon tour les sous-traitants avec lesquels je travaillais.
Ok, super. J'aime bien tout ce que tu décris. Pourquoi ? Parce que tu parles de prospection et dès le départ, en fait, tu sais un petit peu comment affiner justement tes approches avec les personnes. Tu vas rentrer un petit peu dans le détail. Tu vas pas être sur du message généraliste. Tu vas vraiment rentrer dans le détail pour accrocher la personne. Tu as déjà dit des mots qui m'ont marqué. Moi, comme tu le sais, j'ai une agence de télémarketing depuis 2016. Donc, la prospection, je connais. Tu as dit court et concis en termes de messages, parce que nombre de messages qu'on reçoit parfois sur LinkedIn ou ailleurs par mail quand on est dirigeant ou de personnes qui nous sollicitent, c'est des pavés en règle générale, c'est des romans, c'est un tome 1 d'Harry Potter, c'est monstrueux, ça fait vraiment peur. Et toi, tout de suite, tu as cette bonne approche où tu te dis, tiens, c'est comme ça que je vais faire. Je pense que c'est aussi justement comme ça que tu as eu ces 3 clients d'un coup, comme tu dis. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner justement aux personnes qui nous écoutent sur la prospection pour justement faire en sorte d'aller tout de suite à l'essentiel et pas de faire un petit peu comme ces messages automatiques qu'on reçoit avec ces gros pavés, justement, qu'on nous délivre chaque jour.
Je pense que c'est quelque chose que j'ai énormément lu dans des bouquins de développement personnel, développement professionnel. En gros, il faut expliquer en 3 lignes ce que tu peux apporter à la personne en face de toi. Si tu lui expliques par A plus B qu'il a besoin de toi et que tu vas lui l'aider, bah, selon ton objectif, à lui faire gagner plus d'argent ou à le faire réussir mieux dans son travail ou à lui donner plus de légitimité grâce à des mots, bah, c'est ça qui va l'interpeller et il y a beaucoup plus de chances qu'il revienne vers toi, à mon sens.
Des bons exemples, des bons tips, j'aime bien. Autre question, tiens, on est dans les questions, je vais le faire. C'était pas prévu, mais c'est pas grave, j'aime bien par ce que tu dis, donc on va un petit peu évoluer au niveau du questionnement avant de passer justement à cette cinquième première fois. Très intéressant d'ailleurs, je suis en train de regarder, là, je l'ai sous les yeux. C'est quoi les qualités essentielles pour toi, pour une personne qui doit se lancer dans l'entrepreneuriat, pas par rapport à ton activité actuelle, mais peu importe le domaine, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme qualité pour justement réussir sur le long terme?
Il faut être ténace, c'est-à-dire il faut vraiment être persévérant. Au début, quand on est indépendant, on le sait, hein, on a passé le corona, moi c'était le tout début, mais il y a des hauts et il y a des bas. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va garder ou pas. Quand on a un bon client, il faut savoir le garder, mais d'un côté, pas à n'importe quel prix, c'est dont on a parlé pas mal en off. Ça veut dire qu'il faut avoir des valeurs, il faut avoir des limites et voilà. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est-à-dire de se positionner, de savoir comment on se positionne, de savoir se repositionner régulièrement, se remettre en question régulièrement. Rien que moi, en 4 ans, j'ai beaucoup évolué. Je suis passée de freelance on va dire CEO d'une petite agence, hein, parce que je n'ai pas de prétention par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Moi, mon but, c'est juste d'arriver à répondre aux demandes des clients. Je n'aime pas refuser un client, c'est extrêmement rare que je le fasse. Donc, j'accepte absolument la plupart des propositions que j'ai. Et ça va de la rédaction du contenu d'un site internet à une série de newsletters ou un tunnel de vente. À la correction de livres, c'est-à-dire je touche à plein de choses, à du contenu vraiment SEO beaucoup plus spécifique. On touche à plein de choses et j'aime répondre à tous les besoins, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire il y a un moment où il y a des limites et quand ça atteint les limites, il faut savoir aussi dire non.
Et justement, du coup, ça nous amène à cette cinquième première fois. Tu fais bien de parler des limites. La limite du client, justement, elle est où la limite du client? C'est important de la mettre et tu vas nous parler du coup de la première fois où tu as dit non à un client. Et là, il y a peut-être des gens qui vont nous dire, mais comment est-ce qu'on peut dire non à un client? Je pense que c'est important. C'est pas parce qu'on se lance, qu'on est au démarrage de notre activité, qu'on doit dire oui à tous les clients. Bien au contraire, je pense que dire oui à tous les clients, c'est un petit peu se mentir à soi-même et ne pas être en phase avec sa culture d'entreprise, surtout quand le client justement impose ses règles. J'ai un petit peu spoilé justement ce que tu vas nous dire, mais c'est pas grave. Dis-nous du coup comment tu as vécu ce premier non à un client. Ce que ça t'a fait et pourquoi tu lui as dit non?
Ouais, alors honnêtement, moi, j'étais pas au tout début, quand j'ai dit non. C'était un peu plus facile.
T'avais déjà de l'expérience, ouais.
Ouais, parce que j'avais quand même, j'avais des clients sûrs derrière, j'avais un chiffre qui tournait, donc c'est sûr que c'était un peu plus simple que de dire non. À un moment donné, on a envie de faire aussi des choses qu'on aime et avec lesquelles on se sent bien. Et donc, c'est un client qui est venu vers moi en me demandant de corriger un manuscrit avant qu'il soit édité. Donc, c'est à peu près une activité, je dirais 20% de mon activité, les livres. Et c'est quelque chose que je garde pour moi, que je délègue pas forcément. Je peux travailler en équipe sur certains des aspects, mais c'est vraiment quelque chose que je fais seule. Et donc, a fortiori, quand c'est moi qui le fais et seule, il faut que je sois sûre que ce soit quelque chose où je vais être corps et âme pendant un temps. Et là, en fait, j'ai senti qu'il y avait beaucoup trop d'interlocuteurs, beaucoup trop de personnes qui devaient valider mon travail, que j'allais perdre ma liberté, en fait. Et là, ça a été la panique. Donc, j'ai dit non, mais ils sont revenus à la charge, beaucoup de fois. À chaque fois, je me remettais en question, je me disais, je dis oui, je dis non. J'ai demandé, j'ai fait un devis hyper élevé, genre 3 fois les devis que ce que je fais d'habitude. Je me suis dit, ils n'iront jamais oui. Ils ont dit oui. Et j'ai dit, OK, et je fais quoi? Et en fait, une fois qu'ils ont dit oui à ce devis, j'ai eu un vrai cas de conscience parce que j'ai dit, OK, c'est l'argent ou c'est mes valeurs finalement?
J'aime bien cette question.
Est-ce que je suis capable vraiment de dire non alors que y a beaucoup d'argent au bout, quoi. Et donc, j'en ai pas dormi 2-3 nuits et j'ai décidé de les appeler, de leur dire, écoutez, je suis vraiment désolée, mais sur ce coup-là, il faudra faire sans moi. Alors, j'ai essayé d'être propre et de leur trouver des personnes qui pouvaient faire le job à ma place. Je les ai mis en relation avec 2-3 personnes et pour qu'ils leur fassent des devis eux-mêmes. Mais j'ai et après, je me suis sentie mais tellement soulagée, ouais. En fait.
Parce que tu sentais que tu n'allais pas justement à l'encontre de ce que tu es capable de faire. Parce que là, tu dis que tu as besoin de liberté dans ton travail. Tu as senti que tu ne pouvais pas en avoir. Tu as quand même joué le jeu, comme tous les entrepreneurs, de l'argent. C'est-à-dire que tu as doublé, triplé tes prix, triplé ton devis. C'est ce qu'on fait tous. Et puis là, tu te rends compte que finalement, tu as des clients qui sont prêts à payer. Et d'où ces 2-3 nuits blanches un petit peu d'insomnie où tu te dis mince, qu'est-ce que je vais faire? L'argent, c'est quand même important. Mais voilà, je veux qu'on accentue un petit peu justement cette partie-là. C'est... Si on pense vraiment uniquement à l'argent, moi, c'est ce que je dis souvent, j'en parle dans les podcasts, j'en parle dans les publications, je pense que c'est vraiment se mettre une balle dans le pied, se mettre une chaîne autour du pied, vraiment, il y a un poids très très lourd parce que l'important, c'est vraiment de délivrer de la valeur, se concentrer sur ce qu'on va apporter et non pas aujourd'hui se concentrer uniquement sur l'argent. Si c'est le moteur numéro un, je pense qu'on va droit dans le mur. Et là, toi, ce que tu fais, c'est que tu te concentres vraiment sur ce que tu vas délivrer aussi et sur ce que va t'apporter le client. Si le client, au final, il est un petit peu en train de t'imposer des choses quelque part, pourquoi ne pas retourner dans un poste de salarié dans ces cas-là? Parce que quand on est entrepreneur, c'est pour avoir ses propres règles, avoir aussi les règles du client, mais faire en sorte qu'elles soient en corrélation et non pas que l'un ou l'autre puisse justement imposer les choses par rapport à une prestation.
Tout à fait. C'est super intéressant ce que tu dis là, parce que pour revenir sur le premier déclic, c'est sûr que c'est mon job, mon dernier job salarié qui m'a donné envie de devenir indépendante, mais j'ai eu aussi des contraintes familiales. J'ai 4 enfants relativement petits, dont une fille qui a été diagnostiquée autiste. Au moment où je me suis lancée en fait et en fait c'est exactement pour toutes ces raisons là parce que j'avais besoin de cette liberté de mouvement et d'esprit que je me suis lancée à mon compte et je dis souvent à des femmes, à des mamans qu'il faut se lancer. Je dis, il faut se lancer avec du backup, c'est-à-dire qu'il faut se préparer, faut faire attention. Les clients, ils tombent pas du ciel, ça prend du temps. Mais une fois qu'on est installé, en fait, ça vaut tellement la peine. Ça veut dire d'avoir cette liberté de pouvoir travailler le jour ou la nuit, de pouvoir organiser son emploi du temps comme on veut. Le client, si tu travailles bien, il verra pas la différence en fait du moment que le travail est bien fait. Et c'est vrai que de pas avoir un boss sur le dos pour tout vérifier, etc., même si tous les boss sont pas comme ça aujourd'hui, heureusement, ben voilà, ça, moi, c'est ça que ça m'a apporté l'entrepreneuriat au-delà de tout le reste, quoi. La possibilité et de m'épanouir dans mon travail et de m'épanouir dans ma vie et de répondre à mes obligations personnelles, quoi.
C'est le plus important. Puis ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, comme tu dis. Tu mets en place certaines choses, certains automatismes. Tu sacrifies certaines choses aussi parce qu'on parle souvent de l'argent, ce facteur-là qui est important. Mais là, prioriser ses enfants, prioriser sa vie de famille. Moi, j'ai lancé mon entreprise en 2016. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié vraiment tout ce qu'il y avait autour de moi, mon entourage, mes proches. Et c'est un choix. Donc, j'ai pu lancer après mon activité. Mais il faut pas derrière se plaindre, entre guillemets, si on ressent que ça se goupille mal au niveau du personnel et forcément après ça va entacher un petit peu le côté professionnel. Donc bien réfléchir sur ces choix, c'est très important. On arrive à la fin du coup de cet épisode, mais je vais te poser quand même une dernière question. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode avec Johanna que je remercie vraiment de sa participation, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur les plateformes pour qu'on puisse avoir d'autres contenus de qualité, nous dire ce que vous en avez pensé aussi en commentaire. Ça fait vraiment du bien en tout cas au podcast et ça donne de la force, ça nous fait monter au classement, donc n'hésitez pas. Johanna, dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais justement à la Johanna Bensoussan qui a démarré il y a quelques années, qui n'avait aucune expérience? Si elle était en face de toi là tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu lui conseillerais vraiment pour réussir et se lancer dans l'entrepreneuriat?
Waouh, je pense que d'un, j'ai envie de dire, je lui dirais change rien, fais comme t'as fait parce que ça a marché. Que j'ai atteint au-delà de mes objectifs aujourd'hui. Je lui dirais juste d'être fière d'escalader et de chasser plus rapidement possible le syndrome de l'imposteur en fait. Je dirais qu'elle est capable et que sa mère elle avait raison finalement.
Parce que ta maman a toujours cru en toi, justement, et qu'il fallait aller au bout des choses, c'est ça?
Ouais, elle était triste quand j'ai quitté la profession d'avocat. Elle était fière de ce statut. Mais je dirais aussi vraiment à tous les entrepreneurs qui débutent ou pas, qu'à un moment donné, il faut s'écouter, il faut suivre sa passion. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Steve Jobs qui dit « Le jour où, en fait... tu es épanouie dans ton travail, c'est le jour où tu sens même plus que tu travailles. » Et moi, c'est comme ça que j'ai senti les choses. Je pouvais travailler un nombre d'heures incroyable par jour, mais je n'avais pas l'impression de travailler parce que je faisais enfin ce que j'aimais. Et je pense que c'est ça le but de l'entrepreneuriat, quoi.
Et ça fait toute la différence. Ça fait un peu phrase toute faite, « Aimez ce que vous faites et vous n'aurez pas à travailler une seule heure de votre vie. » Mais en réalité, non, mais je la rejoins mille fois, cette phrase-là et cette citation que j'aime beaucoup, justement, de Steve Jobs, dans le sens où, aujourd'hui, moi, je travaille à fond dans le podcast, tu sais. Je travaille même beaucoup plus que quand je travaillais, justement, en tant que dirigeant pour mon agence de télémarketing. Mais quand t'aimes ce que tu fais, même des fois, tu peux avoir des idées le dimanche matin pour de la création, pour des invités, pour écrire un texte. T'as pas l'impression de travailler, ça fait partie de ta vie. Puis après, tu discutes avec ton conjoint, ta conjointe. Donc, c'est des choses qui sont, justement, qui font partie un petit peu de ta vie, donc dans ton petit cocon. Donc, c'est vraiment important, comme tu dis, de, justement, faire les choses qu'on aime.
C'est non-stop, c'est vrai, ça c'est le mauvais côté, mais bon, y a, dans tout, il y a des bons côtés et des mauvais côtés.
Ouais, un entrepreneur, il ne s'arrête jamais de réfléchir le vendredi soir à 19h. Non, non, il n'est pas en stand-by, il n'est pas en week-end, il est en train de réfléchir à sa semaine, au mois suivant, projection, il est peut-être même dans 10 ans. Bon, j'exagère un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'un entrepreneur, ça ne s'arrête jamais de cogiter. Johanna, merci encore d'avoir accepté l'invitation et d'être prêtée justement au jeu des premières fois. C'était un vrai plaisir de t'accueillir sur ce podcast.
Mais bravo, bravo pour le format qui est vraiment hyper innovant. Et enfin, moi, j'adore écouter tes podcasts. Donc, je te souhaite très, très longue vie à ton podcast.
Yes.
Et merci de nous apporter toutes ces choses que tu nous apportes au travers du podcast.
Et vous aussi, vous nous apportez beaucoup. Je dis vous, c'est les auditrices, les auditeurs et les invités comme Johanna, justement, qui nous apportent beaucoup par rapport à la valeur qu'on transmet. L'idée, c'est vraiment de dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pas en claquant des pieds ou en mangeant du quinoa ou en étant en kilt, en jupe et en faisant je ne sais pas quelle méditation pour avoir de l'argent facilement. Non, il y a du travail derrière. Et mon rôle aujourd'hui, à travers ce podcast-là, c'est justement d'expliquer les coulisses de l'entrepreneuriat. Donc, Johanna, encore merci. Une nouvelle invitée qui arrive dès la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à très, très vite. Et encore merci beaucoup pour votre fidélité. Salut tout le monde. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.